à voix nue. Toute cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Virginie Bloch l'aîné et Paul Tchaikovsky-Laurence, fondateur des éditions POL qui vient de nous quitter. Ce soir, je crois au rhizome, j'aime que les auteurs se lisent les uns et les autres.
Paul Tchaikovsky-Laurence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur et le directeur depuis 30 ans de la maison d'édition qui porte pour nom vos initiales, POL. L'une des spécificités de cette maison, c'est l'éclectisme. Vous éditez depuis 30 ans plusieurs formes de littérature, de la poésie, des récits autobiographiques, des romans, de nouvelles traductions de textes classiques, la chanson de Roland, les confessions d'Augustin ont été retraduites par Frédéric Boyer. Et vous êtes l'éditeur de la revue de cinéma Trafic, qui a été créée par Serge Danet. Dans votre catalogue, il n'y a pas de philosophie, quasiment pas d'essais et quasiment pas de littérature étrangère.
Ça n'est pas tout à fait exact. Il y a deux livres de Yann Patochka, quand même, côté philosophie. Mais enfin, bon, il est vrai que je n'ai pas continué. Il y a un petit peu de littérature étrangère. Il y a un ou deux livres par an. Mais comme je ne publie que ce que je lis, j'ai du mal avec la littérature étrangère, puisque, par définition, il y a un intermédiaire. Et maintenant, j'ai résolu ce problème. Quand quelqu'un me dit beaucoup, beaucoup de bien d'un auteur ou d'un livre, je fais faire des essais de traduction et je demande, 15 ou 20 pages. Si ça me plaît, j'en demande encore 20 de plus. Et puis, si ça me plaît vraiment, là, je peux franchir le pas. Mais c'est une procédure qui n'est pas simple. J'ai des confrères qui ont un flair extraordinaire pour repérer à travers ce qu'on leur dit d'un livre la pépite. Et puis j'ai aussi des confrères qui savent lire plusieurs langues, et ce qui leur rend... Moi, je lis l'anglais, mais de manière à peu près approximative. Il faut encore que ce soit une langue très simple pour que j'en vois éventuellement les qualités. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle je publie peu de littérature étrangère. Mais il y a quand même Dumitru Tsepenag, un Roumain, il y a plusieurs Dennis Américains, Cooper. Il y a Dennis Cooper, Harry Matthews, il y a bientôt, va nous rejoindre Cărtărescu, qui est un grand écrivain roumain aussi. Et puis il y a Marco Lodoli, dont j'ai publié, je crois maintenant, 10 ou 12 romans. Donc c'est pas tout à fait absent de... Il y a un Polonais, il y a... Enfin bon, c'est... Voilà, mais c'est pas... Il est vrai que ce n'est pas le cœur de l'activité de la maison, oui, ça c'est vrai.
Et pourquoi pas davantage de philosophie, de sociologie
Je m'intéresse plus à la littérature qu'à la philosophie et à la sociologie, c'est tout simple.
Et en dehors du bureau, du travail, vous en lisez?
Non. Non, c'est, disons que je n'ai pas la tête faite à ça, sans doute. J'en ai lu pendant mes études, etc. Mais ce n'est pas ce que je lis. Oui, ce n'est pas ce que je lis.
Et le cinéma, c'est après la littérature, l'art que vous préférez?
C'est ça quelque chose. Oui, j'aime énormément le cinéma. D'ailleurs, pour être tout à fait complet, quand j'ai un peu à un moment hésité entre édition et cinéma, je voulais faire le concours de ce qui s'appelait à l'époque l'IDEC. Et ma mère m'en avait dissuadé en me disant que je faisais des photos nulles, alors que c'était même pas la peine d'y songer. Et ça m'avait un peu cassé, je dois dire. Et alors que ça n'a rien à voir, en fait. C'est bon. On n'est pas forcément un grand photographe parce qu'on fait du cinéma. Et bon, il arrive que les cinéastes fassent de belles photos, mais c'est pas... Voilà.
Et Serge Danet, vous l'avez rencontré?
Serge Danet, je l'ai rencontré grâce à Leslie Kaplan.
Dont vous aviez édité L'Excès et l'Usine.
Exactement, dont j'avais édité L'Excès et l'Usine chez Hachette. C'est un des derniers livres que j'ai publié d'ailleurs chez Hachette. Elle avait attiré mon attention sur la qualité et la beauté des chroniques de Serge Danet dans Libération. Et elle m'avait dit, tu devrais lui demander un livre. Et donc j'avais pris contact avec Serge Danet. Avec Leslie Kaplan, on avait déjeuné tous les trois. Et là, Serge Danet m'avait expliqué que non, il n'envisageait pas de faire de livres, sinon des recueils d'articles, et que c'était pas... pour l'instant, il n'avait pas envie, mais qu'il avait envie de faire une revue, voilà. Et c'était Trafic. Et donc, on a commencé comme ça.
Et vous continuez.
Voilà. Oui, ça fait... On est au 88e numéro, je crois. Serge Danet a vu les trois premiers numéros, il est mort avant le quatrième.
Vous nous avez dit hier soir que la mort de Georges Perec vous avait permis de prendre votre indépendance d'éditeur parce que vous ne l'auriez pas abandonné chez Hachette.
Oui.
Et pourquoi il fallait le défendre chez Hachette?
Mais pour ce n'était pas comment dire, le défendre contre Hachette, par exemple.
Ouais.
Mais c'était, je me sentais engagé moralement vis-à-vis de lui parce que moi, je pars de ce principe que c'est mieux pour un auteur de confier ses livres à un seul éditeur. Ou à peu d'éditeurs, parce que sinon l'œuvre se disperse. Alors, bon, quand c'est une œuvre importante, elle finit toujours par se rassembler, mais que de temps perdu, souvent, à reconstituer l'œuvre. Et je trouve que c'est mieux. Bon, moi, j'y vois mon intérêt, mon avantage, évidemment, mais j'y vois aussi celui de l'auteur. Et je trouve que l'unité de lieu de parution est importante. Et Georges Perec avait été édité par Julliard de Noël. Et donc, il est venu chez Hachette parce qu'on a eu notre rencontre a été formée. Enfin, c'est bien passé. Et donc, il m'a vraiment fait confiance. S'il n'était pas mort, j'aurais eu beaucoup de scrupules à lui dire, maintenant, on va encore aller ailleurs.
Vous pouvez la raconter, cette rencontre, Paolo Tchaïkovski-Laurence, avec Georges Perec?
Oui, mais bien sûr, oui, c'est le fils de Pierre Dumayet, Antoine Gallien, dont j'avais fait la connaissance autrefois, qui un jour m'a téléphoné en me disant, Georges Perec cherche un éditeur parce que Maurice Nadeau est obligé de quitter les lettres nouvelles, est obligé d'abandonner les lettres nouvelles. Voilà, sachant ça, pour se replacer dans le contexte, effectivement, Maurice Nadeau, qui dirigeait les Lettres Nouvelles, donc sous la bannière de Noël, après les avoir dirigées chez Julliard, était contraint d'abandonner. Bon, voilà, c'était la politique de Noël à l'époque. Et donc, tous ces auteurs se retrouvaient un peu sur la branche. Et Maurice Nadeau lui-même ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Enfin, il y avait un flottement. Et ensuite, il a fait une maison d'édition, mais qui avait qui n'existait pas encore à l'époque, qui avait une fréquence de parution très, très réduite. Or, Georges Perec avait ce grand projet de la vie mode d'emploi. Il était en train de l'écrire. Ça n'était pas terminé. Il en avait, oui, je pense qu'il était déjà en train de l'écrire. Et il était donc à la recherche d'un nouvel éditeur. Et je l'ai contacté. Et à l'époque, je dirigeais cette collection chez Flammarion. Et bon, voilà, ça s'est bien passé. Il était d'accord pour venir. Et enfin, on s'est vu à deux reprises. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça a duré près d'un an, comme ça.
Qu'est-ce que vous aimiez de lui?
Je trouvais
qu'est-ce qui vous touchait en
lui? Ce qui me touchait, c'était sa manière de parler de lui. En s'avançant masqué en quelque sorte, et je trouvais ça en interposant entre le lecteur et lui une forme parfois très très opaque, parfois moins, mais disons que il y avait cette espèce de pudeur qui lui le faisait s'avancer de manière pudique, tout simplement, enfin je crois. Et qui renforçait pour moi la force de la puissance de son exposition, même si cette espèce de d'écran ne faisait que renforcer l'intensité de ce qu'il y avait derrière. Et puisque tout le monde le sait maintenant, enfin l'histoire de Perec n'était pas simple.
Et la pudeur, il l'avait aussi lorsque dans les rapports.
Dans les rapports humains. Bon, il pouvait être, il était très cordial, très amical, mais il y avait toujours une réserve. Mmh. Et je peux dire, je n'ai jamais été son ami. On avait des relations amicales, mais je n'ai jamais été son ami parce qu'il voulait conserver la netteté de nos rapports professionnels.
C'est un livre qui a été bien reçu, La vie mode d'emploi.
Alors d'abord, il y a eu Je me souviens, qui était paru en janvier 78, qui avait été plutôt accueilli, plutôt bien, avec surprise par la presse et avec beaucoup de circonspection chez Hachette, je me souviens. Les gens s'étaient dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fumisterie, ces petits fragments. Et j'ai eu des ennuis avec les vieux cadres supérieurs de HL, je me souviens.
Vous n'étiez pas charmé?
Non.
Non. Et vous l'étiez?
Ah, moi, oui, bien sûr, j'avais trouvé ça formidable. Et puis, il y a eu La vie mode d'emploi, qui est parue la même année, mais en septembre. Et là, ça a été très étrange, parce que il y a d'abord eu un mois de silence, pratiquement un mois de silence total, et moi, j'étais désespéré, parce que c'était un livre, on le connaît. Et puis, d'un coup, c'était un gros livre, c'était ma première année dans cette nouvelle configuration. Et donc, lui et moi, on était quand même un peu glacés par l'espèce de silence. Il fallait simplement que les gens prennent le temps de le lire, parce que ce n'était pas un petit livre. Et tout d'un coup, il y a eu un déferlement de presse extraordinaire, et notamment un article mémorable de Jacqueline Piatier dans Le Monde, qui commençait en première page du Monde. Et alors là, ça a été le démarrage du livre. C'était très... Bon, puis tout le reste de la presse, bien sûr.
Dans votre vie d'éditeur, il y a une autre rencontre. Il y a sûrement beaucoup de rencontres importantes, mais il y en a une autre.
Ce n'est que des rencontres. Ouais. Hein, ce n'est que des rencontres. C'est ce qui en fait ce qui fait de ce métier son intérêt. Hein, c'est qui donne son intérêt à ce métier. C'est la découverte, la rencontre.
Et alors, il y a la rencontre avec Marguerite Duras, alors que vous avez créé votre maison d'édition.
Oui, c'est-à-dire que Marguerite Duras, je l'avais rencontrée à l'occasion de la parution de L'excès à l'usine de Leslie Kaplan, quand j'étais chez Hachette, parce que je m'étais souvenu, c'est aussi le métier d'éditeur, d'essayer de vendre les livres, de les faire connaître et de les vendre. Je m'étais souvenu de l'impact qu'avait eu un article de Marguerite Duras dans le Nouvel Observateur, sur le livre de Robert Linhart, L'établi. Et elle avait fait un article formidable qui avait attiré l'attention sur ce livre, et qui est devenu un livre culte et classique. Donc je m'étais dit, on va voir si puisque le livre de Leslie Kaplan, avec un traitement tout à fait différent, parlait aussi de cette même expérience d'établissement en usine pour toute cette génération de militants politiques. Et j'ai donc envoyé un jeu d'épreuve à Marguerite Duras, qui a réagi immédiatement. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Je lui ai envoyé par la poste avec un petit mot en disant que ce livre devrait l'intéresser. Et voilà. Et elle a dû appeler le lendemain du jour où elle l'avait reçu, sinon le jour même. Et je me souviens qu'elle avait appelé à l'heure du déjeuner, j'étais pas là, et elle est tombée sur le standard de Hachette, qui était un standard immense. Elle a réussi, avec son autorité naturelle, à laisser un message à la standardiste, ce qui ne se faisait jamais, à une des multiples standardistes qui était là, qui, quand je suis rentré de déjeuner, m'a appelé en me disant « il y a une dame qui s'appelle Madame Duras qui voudrait que vous la rappeliez avec le numéro ». Bon, j'étais sidéré parce que ça ne se faisait jamais. Donc je l'ai appelée et on s'est vu et on est allé. Elle a dit il n'est pas question que je fasse. On s'est d'abord parlé au téléphone, bien sûr. Il n'est pas question que je fasse la même chose que pour Robert Linhart, mais je ferai volontiers un entretien. Et donc on est allé Leslie et moi à Nouffles, le château, chez Marguerite Duras pour cette interview qui a duré des heures et des heures. Et j'avais un magnétophone. Après, il a fallu retranscrire. Il y avait au moins 30 pages de retranscription. C'était passionnant. Et donc, Marguerite Duras et Leslie ont retravaillé l'interview, le texte. Et puis, on est parti en chasse d'un journal qui accueillerait cet entretien. Et à notre grande surprise, aucun journal n'en a voulu. On l'a proposé aux deux seuls journaux qui nous paraissaient susceptibles de l'accueillir. C'était le Nouvel Observateur, parce que Marguerite y connaissait bien beaucoup de gens. Et puis Libération, parce que ça... Et les deux ont refusé, sous divers prétextes. Bon. Voilà. Mais c'est paru dans l'autre journal. Je l'ai mis en préface du livre, etc. Mais c'était des débuts laborieux, parce que à l'époque, Marguerite Duras, je dirais pas qu'elle était dans le creux de la vague, mais en tout cas, elle n'avait pas la notoriété qu'elle a acquise ensuite avec après L'Amant.
Et... L'Amant, c'est 1984.
Oui, c'est ouais. ça.
Et vous là, éditez La Douleur.
J'ai en 85. En 85. Donc elle me donne, bon, on a beaucoup sympathisé, et puis elle m'a dit, mais toi, je te donnerai un livre un jour, parce qu'elle tutoyait immédiatement.
Toi, vous avez tout de suite sympathisé. C'était pas une rencontre.
Non, on a tout de suite sympathisé, ça s'est très très bien passé, elle adorait le livre de Leslie, et donc elle m'a dit, assez rapidement, elle m'a dit, je te donnerai un livre, mais pas tant que tu seras chez Hachette, et parce qu'elle avait encore cette, Hachette à l'époque avait encore cette image, vous savez, on disait la pieuvre verte, parce que Hachette était très impliquée dans la distribution des journaux et des magazines, et voilà, était dans quasi situation monopolistique vis-à-vis sur ce terrain-là, et donc il y avait beaucoup de défiance vis-à-vis de Hachette, justifiée ou pas, bon, c'est une autre question. Et en tout cas, Marguerite était dans cet état d'esprit, et mais dès que je suis parti chez Hachette, elle a tenu sa promesse, c'est-à-dire qu'elle m'a un jour contacté pour me disant, ben voilà, est-ce que tu rééditerais un recueil d'articles, c'était Outside, que l'éditeur du recueil d'articles en question ne veut pas réimprimer. C'était au printemps 84. C'était avant L'Amant. Alors moi j'ai dit, mais oui, bien sûr, j'adorais ce recueil d'articles. Donc L'Amant est paru, le recueil est paru un mois après, comme
aux
il était prévu.
L'Amant est paru,
oui, c'est ça. Et puis moi j'ai publié le recueil, c'était le plan de publication, en octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc il a quand même bénéficié de ça. Et en cherchant un deuxième tome d'articles à constituer, parce qu'elle voulait continuer chez moi, cette expérience, elle est tombée sur La Douleur, sur le texte de La Douleur qu'elle avait un peu oublié.
Parce qu'elle l'avait écrit...
Elle l'avait écrit immédiatement après le retour d'Anthelme. Enfin,
donc 47.
Oui, par là, ouais. Oui, 46-47. Je crois qu'en fait, elle a dû l'écrire... Je me demande si c'est pas... Parce que je crois qu'il y a un moment, dans les marges, il est fait mention de l'exposition d'Hiroshima. Donc c'est plutôt... Elle a dû l'écrire... Enfin bon. Et voilà, et ça a été le début de nos aventures.
Et vos aventures, c'était combien de livres?
Vous avez publié combien? Sept.
Marguerite Duras, c'est un auteur qui a, comme Georges Perec, attiré d'autres écrivains vers
beaucoup,
vous.
Oui, oui, beaucoup.
Alors, et les écrivains vous le disent? Ils vous disent, voilà.
Oui, ouais. Alors...
Il y a Martin Winkler, par exemple, qui a pris comme...
C'est Perec, Martin
Winkler,
voilà,
qui a pris comme pseudonyme...
Oui, voilà, ouais. Le nom d'un personnage ouais. de...
De W,
Perret, mais aussi de La Vie Mode d'Emploi.
Et de La Vie Mode d'Emploi, Gaspard.
Non, alors lui, c'est Martin, mais c'est ouais. Winkler, oui, ouais. Gaspard Winkler. Et non, il y a aussi bon, par exemple, Olivier Cadio est venu aussi à cause de Georges Perec. Il y a d'autres qui sont venus à cause Olivier Cadio aussi, d'ailleurs, d'Emmanuel Occar, que j'ai... Les deux premiers livres que j'ai publiés dans ma collection chez Hachette, c'était « Je me souviens de Georges Perec » et puis « Album d'images de la Villa Harris » d'Emmanuel Occar, qui a joué un grand, grand rôle dans la... qui joue, continue de jouer un grand rôle dans la poésie contemporaine. Et comme une espèce de chef de file, enfin, d'aspirateur, de...
Et la poésie, vous en publiez aussi
oui,
au
j'en
début
beaucoup, oui,
et
j'en
au début de P.O.L. aussi.
Oui, ouais. Oui j'en ai toujours publié. C'est sans doute aussi la rencontre avec Jean Frémont, la rencontre rapide après Jean Frémont avec Bernard Noël quand j'ai commencé à travailler chez Flammarion. Et ça m'a montré à quelle importance ça avait de publier de la poésie à l'intérieur d'une maison d'édition de littérature. C'est une espèce de centre comme ça, de cœur de l'activité littéraire, je trouve.
Vous en parlez comme si ça avait aussi de l'importance pour les autres écrivains qui,
je pense,
qui
moi,
viennent,
je crois beaucoup ouais. à la diffusion comme ça.
Au sein de la, enfin, oui, au sein de la maison.
Je crois beaucoup au rhizome, à la capillarité, à ces choses-là, aux imprégnations, aux circulations. J'aime bien que les auteurs se lisent les uns les autres parce que je trouve ça important qu'il y ait une... Non pas créer un esprit de groupe, ça je ne suis pas du tout attaché, mais pour simplement que la littérature circule chez ceux qui la font.
Édouard Levé, c'est un écrivain qui est venu à cause de Pérec aussi.
Je pense. J'en suis même sûr, oui. Il est venu là à cause de... à cause des auteurs que je publiais, et entre autres, où j'avais publié, entre autres, Georges Pérec. Oui, bien sûr.
Et Marie Dariussec, c'est Duras.
Alors, Marie Dariussec, c'est Duras, c'est Pérec aussi. Enfin, c'est Camille Laurence, bizarrement, quand on connaît la suite de l'histoire, mais c'est la publication de Philippe. A joué un grand rôle dans la venue de Marie Dariussec ici.
Philippe, c'est le livre où Camille Laurence parle de la mort de son enfant.
Alors, il se trouve que Marie Dariussec, dans sa famille, on a connu ça et ça l'a beaucoup impressionné. Enfin.
Les premiers succès de POL, les gros succès, ils arrivent à la moitié des années 90.
Parce qu'il y a
cinq années que vous appelez les cinq glorieuses.
Oui,
parce que
il y en a eu d'autres depuis, heureusement. C'est curieux parce que c'est très cyclique. Tout d'un coup, tout s'enchaîne, ça devient très, très heureux. Et puis, il y a d'autres années plus sombres, plus difficiles. Mais bon, je commence à y être habitué maintenant. Le premier gros succès de la maison, ça a été la douleur. Hein. C'est donc dès 85. Et puis en 86, il y a quand même eu le livre de René Belletto, L'Enfer, avec le prix Fémina. D'abord le livre Inter, ensuite le prix Fémina. Non, il y a eu des succès, heureusement, régulièrement, parce que sinon, je ne sais pas comment je m'en serais tiré. Hein. Cela dit, il y a eu des années très, très sombres aussi, très difficiles.
Et comment vous expliquez ces cycles? Par exemple, alors, à partir de 96, ce que vous appelez cinq glorieuses,
Les cinq glorieuses en question commencent en 95, en fait, il y en a six, avec la classe de neige d'Emmanuel Carrère. En 1986, il y a L'Enfer de René Belletto qui a successivement le livre Inter et le prix Fémina. En 1998, il y a La maladie de Saxe qui a le livre Inter et qui a un énorme succès, puisqu'on en a vendu 320 000 exemplaires, on n'avait jamais connu ça et pour cause. Et puis ensuite, donc en 1996, pardon, c'est Truisme, je l'ai dit, je ne sais plus.
De Marie Dariussec.
Oui.
Après, il va y avoir
Dans ces bras-là de Camille Laurence en 2000, je crois. Puis je crois qu'en 2001. Et puis il y a eu aussi Le psychanalyste de Leslie Kaplan en 99, je crois.
La maladie de Saxe de Martin Winkler, pourquoi ça vous a plu lorsque vous avez découvert?
C'est le côté polyphonique. C'est d'abord c'est un livre nourri d'une véritable expérience. Hein. Ça ne s'invente pas ce qu'il a vécu au cours de ses années de médecin de campagne. Et c'est une expérience qui est en plus formalisée, qui est racontée de telle manière que la manière dont elle est racontée la rend encore plus prégnante et présente. Et j'aime cet aspect polyphonique, cette inventivité formelle. Je trouve que moi, ce livre m'a emballé à cause de ça, oui.
Le fait que ce soit un médecin, ça comptait?
Ça a sans doute compté parce que, je me suis passionné autrefois quand j'étais chez Flammarion pour un autre médecin qui s'appelle Jean Reversy, qui est mort maintenant, qui avait d'ailleurs été publié par Maurice Nadeau. Maurice Nadeau avait publié son premier livre, « Lettres nouvelles ». Puis tous ses livres, et puis ce médecin lyonnais a eu 4 ans d'activité, 5 ans d'activité publique, je dirais, littéraire. Il est mort très rapidement, et il y a eu quelques inédits, et donc chez Flammarion, j'avais tout regroupé en un seul volume. J'avais fait la seule et unique préface de ma vie à ce volume. Et donc, voilà, les médecins, j'ai remarqué, c'est pas que souvent, ça donne des écrivains intéressants, hein, de Rabelais
à Céline,
en passant par André Breton, en passant par, donc Jean Reversy, Martin Winkler, plus récemment, et j'en oublie certainement.
La dédicace de la maladie de Saxe, c'est une adresse à 4 ou 5 noms, je crois qu'il y a son père, du reste, dans la liste, qui savait raconter aussi bien qu'il soignait. Ça soigne de raconter, sans doute.
Il y a un effet thérapeutique dans la narration et dans la, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Oui, elle est très belle cette citation, cette adresse.
Est-ce qu'il y a, Paul Tchaïkovski-Laurence, une éthique commune à tous ces écrivains que vous publiez, parce que vous avez dit que vous croigniez aux imprégnations?
Moi, je crois que l'éthique commune, c'est qu'ils ne, même s'ils racontent des histoires, ils ne se racontent pas d'histoires. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont dans une espèce de vérité. Je pense qu'un écrivain, c'est comme, ça peut être métaphoriquement comme un musicien, c'est-à-dire que la note est juste ou elle ne l'est pas. Si la note n'est pas juste, ils ne la mettent pas sur la partition. Il faut qu'elle vienne au moment où elle doit venir et quelle est la tonalité qui convient au moment où elle intervient, où elle arrive. Et donc, je crois qu'un écrivain, enfin ceux auxquels je m'attache, que je veux publier, c'est des écrivains qui savent tout de suite quand ils ne sont pas dans la note juste. Enfin, le savent tout de suite, ou en tout cas le s'en aperçoivent et font en sorte que ce soit juste. Il y a une espèce de rapport à la langue, et donc la langue dans l'écriture qui interdit la facilité, le mensonge, la légèreté. Je crois que je pense qu'ils sont tous dans cette vérité-là.
Merci Paul Tchaïkovski-Laurence, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2014 entre Virginie Bloch l'aînée et Paul Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL. À voix nue, coordination Claire Poincillon, production Virginie Bloch l'aînée, réalisation Anne-Pascale Desvignes et Annabelle Brouard, prise de son Bernard Quentin.